Bien. Donc, on va commencer. Merci d'être venu. Donc, le sujet étant l'adaptation de romans vers le cinéma ou la bande dessinée. Enfin bref, l'adaptation de romans ou nouvelles vers un travail plus visuel, plus scénaristique. C'est surtout ça le point. Alors, pour commencer, en fait, il faut... d'abord, une petite parenthèse, on a un certain temps. Ce que je propose, c'est que je vous parle d'un certain nombre de points concernant les problématiques de l'adaptation, puis ensuite, on peut passer à quelques questions, réponses, si vous avez des précisions à demander ou autre. Alors, d'abord, pour commencer, l'adaptation est finalement assez répandue dans le cinéma, moins en BD, parce qu'il y a beaucoup de scénaristes qui préfèrent travailler des sujets originaux, mais par contre, dans le cinéma, en gros, par exemple, aux États-Unis, c'est à peu près 3 scénarios sur 4 qui sont issus de livres. Donc c'est quand même assez important. L'autre point auquel on ne pense pas immédiatement, c'est que ce soit dans les Oscars ou les Césars ou les n'importe quelle autre grande récompense, les Goya, n'importe quelle grande récompense cinématographique, on se retrouve généralement avec un prix pour le meilleur scénario original et un prix pour la meilleure adaptation. Pourquoi ? Parce que c'est, en fait, ce sont des travaux, ce sont des manières de travailler qui sont complètement différentes. Alors évidemment, il y a un, il y a un fond commun, à savoir que, par exemple, les problématiques d'arc narratif, donc d'évolution des personnages ou de l'action ou d'une scène ou de, tout simplement de l'histoire, restent en gros à peu près les mêmes, pour la bonne raison que le but à chaque fois est que le spectateur soit happé par l'histoire et qu'il ne décroche pas. C'est la grande difficulté de l'écriture du scénario. C'est qu'il faut, faut éviter le décrochage du spectateur. Mais par contre, c'est quand même deux travaux différents dans le sens où partir de la page blanche, c'est une chose, et avoir la responsabilité de porter, de transférer d'un média à un autre une histoire ou des vécus de personnages, j'en ai une autre radicalement différente. Contrairement à ce qu'on croit, d'ailleurs, l'adaptation n'est pas plus simple. Généralement, on imagine que ne pas avoir de page blanche au départ, finalement, est une aide, parce que, bon, on a déjà une sorte de terreau, une terre glaise qu'on va pouvoir remodeler à sa guise de manière à l'adapter à un nouveau média. C'est pas si évident que ça pour un certain nombre de raisons. D'abord, il faut être sûr que le livre ou la nouvelle ait un potentiel pour être adapté. Alors, le potentiel, c'est l'intérêt, en fait, à être porté dans un autre média. Il y a des histoires ou tout simplement même des types d'écriture qui sont extrêmement difficiles et qui vont pas vraiment gagner à être transposés. Là, on risque vraiment de se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Ce sont des pièges, ces romans-là. Pareil pour aussi l'adaptation théâtrale vers le cinéma, c'est pas toujours évident pour un certain nombre de raisons, à commencer par des raisons d'espace ou de nombre de personnages, etc. Dans les autres difficultés, il y a justement, j'en parlais, le nombre de personnages. Alors, dans un roman, généralement, on a quand même beaucoup de personnages. Il y a même quand même des romans assez records pour ça. Je me rappellerai toujours à la lecture de Guerre et Paix, quand même, de Tolstoï. Dans la Pléiade, à la fin, ils mettent carrément le récapitulatif de tous les personnages, parce que on est obligé à un moment ou à un autre, même avec une bonne mémoire, de s'y référer, parce que c'est tout simplement impossible de tout mémoriser. Bon, Si on voulait adapter Guerre et Paix, et ça s'est fait, généralement de façon assez peu satisfaisante, parce que le roman est extrêmement long et très complexe, donc on est obligé de couper comme pas possible, et du coup, là, on enlève une dimension du haut roman qui est celle justement de la durée, de l'aspect fleuve. En coupant, ben, on se retrouve à réduire. Alors évidemment, généralement, ce qu'ont fait les scénaristes, c'est qu'ils ont énormément réduit le nombre de personnages. Ça, on va y revenir parce que c'est... bon, dans le cas de romans fleuves, ça paraît assez évident. Mais même des romans beaucoup plus courts, de toute façon, généralement, développent beaucoup plus de personnages qu'un scénario moyen pour le cinéma ou la BD. Ensuite, il y a un autre point qui est assez capital, c'est que le roman, comme la nouvelle ou le théâtre, alors le théâtre c'est encore pire même, j'irais dire, ne sont pas forcément très visuels, en tout cas pas toujours. On a des romans qui peuvent être extrêmement descriptifs, là-dessus on est bien d'accord, mais ça ne signifie pas forcément que ça va faire de bonnes images. Or, en cinéma, enfin, le cinéma est un art d'abord narratif visuel. Jusqu'en 1929-30 et même les quelques premières années des années 30, finalement, le cinéma était muet. La narration était organisée sur une base purement visuelle avec des outils spécifiques du type montage, cadre, rythme. Alors, ça marche très très bien, finalement, sans le son, sans le dialogue, le cinéma, uniquement par l'image. Donc, quelque part, le cinéma peut se retrouver exactement à l'opposé de la littérature. Un roman qui ne serait pas suffisamment visuel serait extrêmement difficile à adapter. Alors, parmi les exemples, hein, bon, il faut en mettre comme ça, c'est plus parlant. Il y a un certain nombre de nouveaux romans, par exemple, qui ne fonctionnent pas très très bien, enfin qui sont très difficiles à mettre dans à porter à l'écran. En BD, curieusement, ça peut se faire un peu plus facilement, mais rares sont les réalisateurs qui se sont amusés à apporter du Rob Grillet ou du Duras à l'écran. Alors, celui qui a réussi le mieux, c'est probablement Alain Resnais, qui a vraiment réussi à trouver des équivalents, une manière de le porter en trouvant des équivalents en fait narratifs d'un art à un autre. Quand on considère Marianne Bad, par exemple, on sent vraiment la même rythmique que Rob Grillet. Mais il cède d'un procédé littéraire qui est ni plus ni moins que la voix off. Et la voix off, vraiment une voix off typiquement Rob Grillet. Il a aussi réussi avec Hiroshima mon amour d'après Duras, mais Duras elle-même a collaboré au scénario, donc déjà il y avait moins de risques de dérive. Et puis bon, je cite ces deux romanciers, mais ce sont également des cinéastes, donc bon, dont on aime le travail ou pas, mais en tout cas qui se sont posés les problématiques de la différence entre littérature et travail cinématographique. Ensuite, évidemment, il y a quand je parlais de visuel, c'est que il n'y a pas seulement la problématique de le mettre en image, c'est qu'il y a aussi le fait que les images doivent être intéressantes, et notamment en cinéma, il faut du mouvement. On ne peut pas trop avoir, si je fais une caricature, une série de diapos, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, même au début de Marianne Bad, on a de très très longs travelling dans l'hôtel principal, ne serait-ce que pour habiller cette description du lieu. Il est évident qu'un roman qui est extrêmement dynamique, qui possède des scènes d'action, des personnages qui bougent, bon, prenons par exemple le polar, typiquement, sera beaucoup plus facile à adapter qu'un roman qui se passe avec un certain nombre de personnages, à la limite. C'est pas important, mais dans une ou deux pièces, et qu'ils ne font jamais que se déplacer, parler, etc. Ça, ce sont quand même au départ des narrations qui sont un peu anti-cinématographiques, alors qui peuvent très bien fonctionner au niveau littéraire, mais qui vont être de véritables chausse-trappes pour l'adaptateur. Alors, En gros, comment adapter? Le premier point, c'est de devenir en fait extrêmement intime avec le travail d'origine. À savoir, il faut le lire un certain nombre de fois, mais j'irais dire un peu mécaniquement. Il y a un jour, j'avais entendu un acteur qui faisait une réflexion assez intéressante, qui disait que pour obtenir, d'ailleurs, en fait, c'était Jean Renoir qui disait qu'il faisait répéter ses acteurs en les faisant répéter le texte de façon mécanique, en boucle, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, et jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui se produise parce que tout à coup le ton venait, mais du coup il venait naturellement. C'est-à-dire qu'il ne fabri il ne demandait pas aux acteurs d'y réfléchir et de construire intellectuellement le personnage dont il lisait les lignes de dialogue. Bon. Il les épuisait à faire répéter jusqu'à ce que ils le sentent. Alors, en gros, on peut utiliser ce même procédé, à savoir lire le texte un certain nombre de fois, de manière à non seulement le connaître, mais aussi à ce que tout à coup on ait des déclics. Et surtout à ce que l'on dépasse le niveau de la simple histoire pour qu'on comprenne en fait ce que c'est que le thème du roman ou de la nouvelle. Parce que ça, c'est en fait, c'est là le point probablement le plus important, c'est que une bonne adaptation ne consiste pas forcément à reprendre exactement l'histoire, paradoxalement. On peut changer énormément de choses dedans. Mais par contre, il faut que le thème et le propos soient assez proches. Si on fait l'impasse justement sur ces deux points, c'est là où on risque le danger que redoute tout adaptateur, qui est celui d'avoir été infidèle par rapport au travail d'origine. À partir du moment où on commence à comprendre le récit, on va commencer à comprendre, enfin à déterminer aussi ce qui est finalement, non pas méchamment, mais de manière pragmatique, ce qui est inutile pour nous. C'est-à-dire que déjà, il y a souvent chez les romanciers, bon, une certaine forme de licence poétique qui fait qu'ils vont pouvoir se permettre des apartés. Qui vont pas passer après au cinéma ou en BD. Bon, ça, c'est parmi les premiers points qu'il faut relever, mettre de côté, pas forcément les abandonner, parce que dedans, il y a que quelques idées qui ont dû intéresser le romancier pour qu'il les... enfin, qu'il les développe sur 10, 20 ou 30 pages, alors qu'on est légèrement en dehors du fil narratif, mais qu'on peut très bien quand même réintégrer autrement. Mais surtout pas en faisant tout à coup une cassure dans le rythme pour amener un chapitre ou des considérations personnelles qui finalement sont pas tout à fait, qui sont insuffisamment liées à la narration. En mettant des choses de côté, il y a aussi toutes les scènes un peu trop redondantes. Il y a tout ce que l'on peut exprimer beaucoup plus simplement et beaucoup plus efficacement avec d'autres procédés que ceux utilisés par le romancier. Alors pourquoi mettre de côté le plus de choses possible en fait? C'est d'abord pour inversement conserver ce qui est réellement nécessaire. Il y a des sortes d'insubmersibles, pour reprendre l'expression de Kubrick, à savoir des points sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse, sinon le récit et le thème deviennent tout à fait incompréhensibles. Et puis, c'est surtout pour un point précis, c'est que la durée d'un film était de 1 h 30 de façon classique, maintenant c'est plutôt 2 heures. C'est quand même généralement, et surtout aujourd'hui avec l'inflation de la pagination, très largement inférieur au temps de lecture du roman. Et si dans le roman on ne s'est pas ennuyé, ce qui généralement est le cas, bien sûr, hein, ce qui est certain, c'est que de toute manière, on ne peut pas avoir une adaptation qui soit de la même durée que celle de la lecture. Aucun producteur acceptera ça. Il y a quelques réalisateurs qui ont essayé, hein, mais généralement, le producteur les a. Les a fait revoir leur montage, ou alors c'était dans des conditions de production et surtout de diffusion particulières. Par exemple, il y avait eu une adaptation d'Alexander Platz qui se déroulait pour la télévision sur une durée de 16 heures. Bon, alors le roman, de toute façon, est assez grand, mais là, évidemment, ça se comprend. Si on prend des films très très longs avec finalement des formats assez curieux et qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore. Mettons 20 ans, comme par exemple la trilogie du Seigneur des Anneaux. On arrive à 9 heures, un peu plus si on prend les versions longues, bon, mettons une dizaine d'heures. Bon, une dizaine d'heures, de toute façon, vous n'allez pas lire les 1600 pages du Seigneur des Anneaux en une dizaine d'heures, on est bien d'accord. Par contre, donc là aussi, il y a eu des choix. Par contre, sur le Hobbit, qui est finalement un roman relativement court, la trilogie est. On ne peut plus fidèle. J'ai vu que le premier, je ne vais pas aller voir les deux autres, hein, honnêtement, parce que y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient. Et en rentrant, j'ai repris le bouquin, j'ai relu le début, et je me suis aperçu qu'en gros, il avait adapté à peu près, mais je ne vais pas dire chaque phrase, mais presque. C'était incroyable. Hein.
C'est moins vrai sur les suivants.
Oui, mais alors le premier, c'est incroyable. Mais en tout cas, quelque part, ça fait quand même un travail un peu trop long au niveau cinématographique. On ne gagne pas forcément en mettant tout. C'est pas le but du jeu, de toute façon. Toute l'idée d'un roman, à la lecture, c'est de se faire son cinéma intérieur, à savoir de se représenter exactement ce qu'il y a. Et quelquefois, ça peut être même plus intéressant que de le voir à l'écran. D'ailleurs, parenthèse, surtout en science-fiction. Et puis il y a des romans de science-fiction qui sont. Je vois pas très très bien comment, par exemple, on peut adapter Babel 17 en film. Ça me paraît très très difficile. Il y a eu quelques pièges aussi, mais qui ont été relativement bien gérés. Je pense à Solaris de Stanislas Lem, qui est quand même un roman très très difficile à adapter parce que bon. Mais il y a un aspect humain dans Solaris avec les rencontres qui fait qu'on peut s'en débrouiller. Mais dès qu'un roman, là aussi, on parlait de visuel, devient trop abstrait, trop dans l'idée, ça devient vraiment délicat. Donc toute l'idée, c'est de raccourcir. Et évidemment, toute la difficulté, c'est de savoir en fait comment on raccourcit. L'autre souci, donc je parlais aussi des scènes qui ne sont pas. Ou des romans au départ qui ne sont pas suffisamment dynamiques, il y a aussi les scènes qui ne sont pas suffisamment dynamiques. Alors, c'est vrai que les scènes qui ne sont pas dynamiques, ce sont celles que l'on peut enlever, mais en conservant le contenu quand même dans un coin de sa tête. Parce qu'on peut toujours, surtout s'il est important pour la compréhension, on peut le réutiliser en le mettant en scène dans des séquences ou des scènes qui sont plus dynamiques. Il y a aussi là toujours la possibilité de rendre des scènes plus dynamiques ou plus palpitantes. Un exemple parmi d'autres, c'est de mettre une ticking clock, ce qu'on appelle vraiment, bon, c'est-à-dire une sorte de soit de compte à rebours, soit de suspense. Qui permettent d'amener un intérêt à la scène, quand bien même ce qui est dit n'est pas particulièrement intéressant. Alors, il ne s'agit pas forcément d'avoir quelque chose de réellement effrayant, comme mettons mettre une bombe sous une table, en avertir le spectateur, donc avec une ironie, ce qu'on appelle une ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur en connaît plus que que les personnages. Et du coup, par exemple, que l'on sache qu'à quelle heure la bombe va exploser, avoir une conversation, puis quelques plans sur la pendule de temps en temps pour faire monter, bon, procédé très classique, très hitchcockien notamment. Et du coup, évidemment, le dialogue devient intéressant, alors que dans un autre contexte, il ne le serait pas. Bon. Alors, on n'est pas obligé forcément de mettre des bombes sous toutes les tables, parce que ça serait quand même un peu artificiel au bout d'un moment. Mais par contre, on peut avoir un train à prendre, on peut être en retard, on peut faire en sorte que deux personnes aient à se parler avant qu'une troisième, qui serait par exemple un peu liée à leur conversation et qui n'aurait pas à l'entendre, n'arrive. Il y a des procédés comme ça qui vont permettre finalement de dynamiser une scène où il n'y a entre guillemets que de l'information, mais de la rendre plus intéressante à l'écran. Alors, ceci dit, ce type de scène également n'est pas toujours, c'est pas toujours le meilleur ami du réalisateur et pas forcément non plus le meilleur ami des comédiens. J'entends les scènes où on a principalement du dialogue. Alors, pas forcément le meilleur ami du réalisateur parce que le cinéma parlant a amené à mon goût, un appauvrissement de la grammaire cinématographique. Dans le sens où, si on regarde les films de Fritz Lang, Murnau, enfin les grands du muet, on a une inventivité en termes de cadre, de lumière, de découpage, de montage, qui a été cassée par l'obligation, en fait, de mettre à l'écran les personnages qui parlent ou qui écoutent. Le chant contre chant, typiquement, est une invention. Donc, un plan sur un personnage avec en amorce le second personnage, puis un autre cadre à 120 degrés où on inverse, chant contre chant. Ça, c'est typiquement une invention destinée à mettre le dialogue à l'écran. Alors, c'est pas forcément toujours gênant, mais ça appauvrit l'écriture cinématographique et, on ne peut pas faire 5 minutes de chant contre chant au cinéma. Déjà, la télé, c'est limite, mais au cinéma, c'est sur un grand écran, c'est extrêmement difficile, ou alors il faut vraiment que la conversation soit assez remarquable. Alors, parfois, on essaye de changer en ne mettant plus la caméra sur celui qui parle, mais en la mettant sur celui qui écoute, ce qui permet d'avoir un autre point de vue qui est l'effet du dialogue, plutôt que la manière dont il est énoncé. Après tout, on a toujours la voix off de celui qui parle, et son intonation nous donne des informations d'ordre dramatique. Et par contre, on peut avoir, si dans un dialogue on dit je ne peux plus te supporter, je te quitte, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir la caméra sur celui qui parle ou sur celui qui écoute? Ça va dépendre évidemment du moment où ça arrive dans la dramaturgie, mais voilà. Néanmoins, on se retrouve quand même avec des caméras qui sont pas très intéressantes, et pour l'acteur, c'est pas non plus très passionnant, parce que pendant qu'on parle, généralement, on fait pas grand-chose d'autre, surtout si le dialogue est important dans la dramaturgie. Ça signifie que, autant en théâtre, par exemple, en mise en scène, on fait bouger les acteurs, on les fait traverser l'espace scénique, on leur fait prendre des objets, s'habiller, se mettre dans le canapé, se relever, ouvrir une porte, n'importe quoi. Autant en cinéma, il faut effectivement aussi avoir des sortes d'actions, voire des actions secondaires, mais on ne peut pas forcément toujours avoir recours aux vieux trucs du genre les deux personnages, on va les faire discuter dans la cuisine pendant qu'ils préparent à manger. Exemple typique. Donc, on perd du temps avec ces scènes-là, et j'irais dire d'une certaine façon qu'on le perd, ce temps, de la même façon qu'on peut le perdre, en fait, dans certaines formes de littérature qui sont extrêmement bavardes. Si on prend le contre-exemple de cela en littérature, à savoir par exemple le polar, où le personnage se définit par ses actions plutôt que par ce qu'il dit, là, on a, comme par hasard dans ces romans, un tempo qui est, de façon générale, assez rapide, plus rapide que dans la plupart des romans de littérature générale, mainstream, blanche, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc, il faut, quand on voit ce type de scène écrite qui est très longue en termes de dialogue, il faut voir où on peut couper, comment la dynamiser, comment la mettre dans un autre lieu, pourquoi ne pas rajouter un autre personnage pour le coup, ou comment l'incorporer avec une autre scène de manière à aller plus vite et à rendre l'ensemble beaucoup plus dynamique. Alors, ce que je dis au niveau cinéma, bon, comme je suis principalement scénariste de BD au départ, et j'ai d'ailleurs fait quelques adaptations pour, enfin, en BD, c'est encore pire en BD. Parce que, en BD, le décor, alors là, c'est franchement toujours le même, quoi. Le champ contre champ en BD, ça ne fonctionne pas, faut être clair. En cinéma, encore, on peut à peu près avoir de la vie parce que ce sont des personnages réalistes dans lesquels on peut s'identifier. S'identifier en un personnage dessiné, beaucoup moins évident, et quand le décor, qui est obligatoirement simplifié et donc moins riche, moins chatoyant, est répété case après case, alors là, c'est juste la mort pour le lecteur. Et quand on ouvre une double planche et qu'on voit que, en gros, le décor a été répété avec quelques angles différents sur chaque case, et que les cases, du coup, bah, ont aussi à peu près le même format, donc il n'y a pas vraiment de variation à l'intérieur de l'espace des planches, là, on se dit, bon, il doit falloir la lire parce que c'est là, ce sont là les deux planches, mais la vache... c'est pas ce que j'attends, quoi, d'une BD. En plus, une BD, accessoirement, bon, aujourd'hui, les formats ont tendance à être beaucoup plus importants, mais enfin, c'est vrai que sur les formats classiques de 48 ou à la limite 56 planches, avoir deux, enfin, une double page comme ça, une double planche aussi statique, ça le fait pas, quoi. Alors, un des points importants, c'est que quand on commence à être, à avoir beaucoup lu, à commencer à faire le tri, il y a un moment où, bah, finalement, c'est un peu comme en écriture quand on parle de la page blanche. Il y a un moment où on oublie ce qu'on devait faire. On ne sait plus où on en est. À savoir que quand on est, par exemple, quand on écrit vraiment un récit en partant de rien, il y a un moment où on a tellement évalué, tellement mis de possibilités de personnages, de situations, ou même d'idées sur les pages ou sur son ordinateur, et que le moment est arrivé de faire du tri, d'organiser, etc. On ne sait plus exactement, finalement, où on voulait aller. Alors, très souvent, déjà, parce que ça évolue entre-temps, ça c'est le premier point. Généralement, c'est une fois qu'on a terminé le roman ou le scénario qu'on s'aperçoit réellement de ce qu'on voulait dire, et du coup, il n'y a plus qu'à tout recommencer. Ça, c'est, alors là, c'est très très clair. D'où le fait que, vraiment, avant la 4e ou 5e réécriture du scénario, en gros, ce qu'on a produit n'est pas bon. Ça peut paraître un peu pessimiste et violent, mais malheureusement, c'est vraiment ça. Mais c'est pareil pour l'adaptation. Il y a un moment où on a le gros sac, on a tout ce qu'on a enlevé, le sac, on a tout ce qu'on a gardé, et puis un sac encore plus énorme où on ne sait pas trop. Et il faut commencer à mettre ça en forme avec un certain nombre d'obligations, à commencer par celle de la durée, et puis celle peut-être de jouer avec des structures, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc assez vite, parce que ça passe... Là, il faut absolument, pour éviter de perdre du temps, d'aller dans des mauvaises directions, de s'apercevoir qu'en fait, on fait fausse route. Mais ces fausses routes, elles ont planté elles ont planté des mauvaises graines dans la tête. C'est-à-dire qu'on a du mal après à se débarrasser de ça. On garde ces idées qui, en fait, sont vraiment à virer. Et puis alors, comme on est professionnel, on sait qu'il faut les enlever. Parce que la différence entre l'amateur et le professionnel, c'est que l'amateur, il n'a pas de gomme. Et il n'en veut pas. Il est content d'avoir écrit et il veut tout garder. Le professionnel, il a un seul crayon et 15 gommes. C'est tout. Mais encore faut-il savoir où gommer, c'est-à-dire en fait où on veut aller. Et là, Il faut absolument revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir, c'est pas forcément l'histoire. On peut faire des impasses sur plein de personnages. On peut notamment aussi, s'il y a trop de personnages, prendre deux, trois qui sont finalement importants, mais pas tant que ça, et en fabriquer un seul à partir de trois. Ça, c'est extrêmement important aussi, parce que ça va permettre notamment de lier plusieurs scènes qui sont éclatées, qui prennent du temps dans le récit d'origine, et puis de les remettre. Mais sinon, c'est revenir vraiment au thème. Si on garde à l'esprit l'intention de l'auteur, on saura quoi garder et quoi enlever, indépendamment des problématiques techniques de durée ou de médias. Alors, normalement, avec la lecture, on a su quelles étaient les intentions. Et finalement, on a la prémisse, à savoir le pitch qui tient en deux lignes maximum, c'est-à-dire une phrase. Et ce pitch, quand on l'a vraiment compris, ben, il faut vraiment l'écrire et le mettre sur le mur, et dès qu'on doute, on y revient. Sinon, on est dans une barque et on aurait perdu les rames et il y aurait plein de courants partout. Et on serait ballotté d'un endroit à un autre et on n'y arriverait pas. Un autre truc, généralement, que je trouve assez intéressant pour savoir de quoi parle un roman, et c'est assez bon d'ailleurs pour les films, c'est de bien reconsidérer le titre. Ça a l'air bête, mais en fait, quelquefois on imagine que le titre est bizarre, parce que bon, finalement, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a l'impression de lire ou de voir. Mais en fait, si on analyse bien, on s'aperçoit que le titre est beaucoup plus parlant que ce que l'on croyait. Alors, Roméo et Juliette, c'est clair comme titre. Non, mais bon, là... Oui, mais on aurait pu en avoir d'autres. On aurait pu mettre le nom des deux familles et pas le prénom. On aurait pu mettre le contexte, l'époque, la ville. On aurait pu intituler ça « La guerre des clans ». C'est pas un problème. Ben non, visiblement, non. C'est l'intention, c'est le couple. Tout est dedans. Même des romans absolument fleuves qui brassent énormément de thèmes. Alors prenons, tiens, un Frank Herbert. Bon, ben, Dune. C'est un seul mot. C'est juste la planète. Et c'est normal, finalement. On a une kyrielle de personnages, on a énormément d'arcs narratifs qui sont entremêlés, on a on a une histoire qui brasse un grand nombre de sujets. Il y a un nombre de niveaux de lecture impressionnants. C'était pas très très évident de trouver un titre qui permette de tout rassembler. Bah si. Alors celui-là est assez remarquable. Et le pire, c'est qu'il est simple, mais je ne suis pas certain qu'il ait été trouvé du premier coup, honnêtement. Alors voilà, on peut à chaque fois revenir au titre, parce que finalement, c'est la boussole qui va permettre de comprendre vraiment quelle était l'intention première de l'auteur. Ce qui n'empêche d'ailleurs que très souvent dans les adaptations, justement, le titre peut changer. Bon, des raisons étonnantes. Alors, j'y étonnante parce que généralement, on a tendance à vouloir utiliser le succès d'un livre pour amener des spectateurs à aller voir le film. Ça paraît logique. Mais ceci dit, bon, voilà, Blade Runner. C'est pas le titre de la nouvelle d'origine de Dick, on est d'accord. Bon, il faut dire que le titre était trop long. Mais par contre, il est... Non, mais trop long pour un titre de cinéma, quoi. Ça le fait pas, c'est clair. C'est très rare, les titres de films qui font plus d'une ligne. Ou alors, il y a derrière une volonté de désacraliser ou de faire de la plaisanterie, tout ce que vous avez voulu savoir sans oser le demander, etc. Bon, Mais ça, c'est OK, Woody Allen peut le faire, mais on va pas forcément le faire sur un sujet avec un réel propos comme est-ce que les moutons. Bon. Mais par contre, le titre de la nouvelle de Dick est parfait. Là, dedans, on a absolument tout. Et on a même l'idée de l'illusion, avec le rêve. Alors, donc, comme on a dit, les temps morts, c'est vraiment à enlever. Il y a aussi un point qui est, et du coup, on va arriver à la structure. Il y a un point qui est vraiment très important, c'est que la manière dont un roman est organisé en termes d'action, de scène, ne fonctionne pas forcément en audiovisuel ou en BD avec ce même ordre. Il y a un certain nombre de raisons à cela. La première, c'est que quand on arrive dans une salle de cinéma, on s'isole du monde extérieur, beaucoup plus que quand on prend un livre chez soi ou quand on a un livre dans le métro. On s'isole quand même. J'ai raté un certain nombre de stations de métro comme ça. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais néanmoins, là, on se retrouve, on n'est pas chez soi, on est dans un lieu sombre, on est en communauté, on est devant un écran, c'est tout à fait différent. Il faut absolument faire oublier au spectateur qui il est et d'où il vient. Donc généralement, on travaille de plus en plus au cinéma avec des scènes chocs pour commencer, bref, ce qu'on appelle des accroches. Un exemple typique, même si c'est un cas particulier, étant évidemment les quasi-courts-métrages d'introduction des James Bond. Mais ça, on ne l'a pas forcément dans un roman. Un roman peut démarrer beaucoup plus lentement pour installer une ambiance. Installer une ambiance en cinéma, c'est beaucoup plus délicat. Il vaut mieux que quelqu'un se prenne tout de suite un coup de poignard dans le dos et au moins. On sait que le spectateur va vouloir savoir ce qui se passe après. D'autre part, pour des raisons quelquefois un peu étonnantes, et d'ailleurs c'est remis en cause par un certain nombre de gourous aux États-Unis, le scénario cinématographique, si l'on accepte le cas de la nouvelle série télé américaine, travaille encore sur les trois actes d'Aristote. Mais alors, ils sont séparés de façon assez hermétique quand même, et surtout, ils n'ont pas la même durée. C'est-à-dire que le premier acte, qui est celui d'exposition, dure, généralement, on estime qu'il dure un quart de la durée globale du film. Bon. Le deuxième acte de développement, on est plutôt sur la moitié. Et le troisième de résolution sur le dernier quart. Alors ça signifie que dans un film, on va prendre l'exemple d'un film qui ferait 2 heures. Le premier acte, c'est une demi-heure, max. En une demi-heure, il faut qu'on ait donné le contexte, les personnages, la grande question dramatique, à savoir, quel est le but des personnages, vers quoi on doit aller, quels vont être les obstacles. On doit absolument avoir donné toutes ces infos aux spectateurs. Et si on arrive à le faire en moins de temps, c'est pas plus mal. Ouais. C'est pas plus mal parce que le plus rapidement on propulse le spectateur dans l'histoire, le plus il va être accroché, le plus vite il va être accroché, le plus sûrement il va être accroché. Ça signifie que les événements d'un roman, les événements intéressants au niveau dramatique qui se produisent plus tard vont devoir être mis plutôt au début du film. Ou alors il va falloir réellement transformer radicalement le début du roman pour le rendre intéressant. Ça, c'est pas très très évident parce que il faut revoir en fait la linéarité, la séquentialité d'origine, et que ça fonctionne tout de même, et en évitant évidemment les incohérences comme les risques de d'ironie dramatique involontaire, quoi. Donc, y a ça, et puis il y a aussi, par exemple, le fait que dans un roman, on puisse avoir un certain nombre d'actions, enfin d'intrigues secondaires, qui passent très bien, et il faut aussi des intrigues secondaires dans un scénario, mais il faut vraiment qu'elles soient purement au service de l'intrigue principale. On ne peut pas se faire plaisir avec. Donc, celles-là, c'est pareil, vont être éliminées ou alors, dans ce cas, transformées. Et par exemple, effectivement, on peut les mettre au début si vraiment elles permettent de retarder l'arrivée d'un personnage, du personnage principal, mais tout en mettant une scène choc qui sera propre à accrocher le spectateur. Ça peut être, par exemple, le personnage principal, mettons d'Inglourious Basterds, il arrive pas tout de suite de Tarantino. Et la première scène du film est relativement lente parce que bon, elle est calquée sur du découpage à Sergio Leone, donc il s'amusait à fabriquer une ambiance, mais néanmoins on a une énorme tension et on a une violence extrême à la fin de cette première scène. Et en même temps, on a tout le contexte qui est mis, etc. Mais on n'a pas encore eu vraiment le personnage principal avec toute sa troupe qui va finalement que l'on va suivre pendant tout le film. Ce qui aurait pu être finalement cette scène d'introduction qui est importante, parce qu'il y a quand même un des personnages, enfin il y a l'antagoniste qui est quand même présenté, dans un roman elle aurait peut-être été plus tard. Mais par contre c'est vrai que là on l'a dans ce film et c'est pas mal parce que ça permet aussi d'amener de l'info de façon assez brutale, mais d'avoir en même temps de retarder légèrement quand même une information capitale. Qui est l'identité du protagoniste. Alors, il y a un autre point, indépendamment de la durée, si on enlève et si on restructure, c'est aussi pour une raison simple, c'est qu'il faut simplifier l'intrigue. Alors, ça risque de faire bondir, parce que c'est un peu du sacrilège. On a l'impression qu'il y a toute une dimension, une complexité qui va passer à la trappe, mais il faut simplifier pour une raison toute simple, c'est que d'abord la durée d'un film, encore une fois, ne permet pas d'avoir toute la profondeur qu'on peut avoir dans certains romans, et ensuite, quand on est dans une salle de projo et qu'on a raté quelque chose, on claque pas des doigts pour que le projectionniste rembobine et remette là où on a paumé. Alors qu'un bouquin, c'est très simple, hein, la page. Bon. Alors en BD, évidemment, en adaptation BD, c'est un peu différent, puisque là aussi, on est maître de la temporalité de lecture. Bon. Mais si on pense cinéma, il faut vraiment que ce soit finalement extrêmement clair. Disons que le terme de simplicité est peut-être pas le plus adapté, mais il faut que la compréhension soit immédiate pour à peu près n'importe quel spectateur. Alors bon, évidemment, après, il y a des scénarios qui s'amusent à être assez complexes et finalement qui a invité à revoir le film. Je pense à par exemple, aux films de Christopher Nolan, par exemple, qui sont particulièrement complexe en termes de structure, mais parce que bon, il joue sur des fins ouvertes ou alors sur des structures non linéaires et qui sont des films qui généralement encouragent à être revus. Bon. Après, Ce que l'on peut dire, c'est pour la structure, c'est que là où on peut être aidé quand on a justement ces problématiques de choix à faire et d'organisation, c'est reprendre les grands paradigmes des grands gourous américains. Alors, je ne suis pas forcément toujours partant sur ces paradigmes parce qu'ils ont quelque chose de mécanique. Et en France, on est particulièrement contre l'utilisation de ce qu'on peut imaginer être des sortes de formules, de recettes, où il n'y a plus qu'à remplir les cases. Alors, dans certains cas, ça fonctionne parfaitement. Pourtant, l'exemple typique, c'est le voyage du héros, issu des théories de Campbell, en 12 étapes. Et là, c'est vrai qu'on le retrouve assez régulièrement dans un certain nombre de créations ou d'adaptations, mais il fonctionne très très bien. Et en plus, il est maintenant, comme il est beaucoup utilisé, il est accepté par le public, qui en connaît finalement même inconsciemment les rouages. Et du coup, ça serait intéressant d'en faire une variation complètement différente, mais en fait, comme elle fonctionne, il n'y a pas finalement beaucoup de raisons d'y échapper. Mais il y en a qui sont beaucoup plus universels, comme par exemple celui développé par Ziegfeld, où on se retrouve avec, au milieu du film, un turning point, donc vraiment un nœud dramatique central, qui soit amène quelque chose de tout à fait imprévu, soit un événement qui permet de reconsidérer, enfin de considérer tout ce que l'on a vu, c'est quand même la moitié du scénario, sous un autre angle. Et donc de relancer l'intérêt du spectateur. Alors, ça, c'est intéressant. La difficulté, c'est de trouver dans le roman le truc qui pourrait être placé à cet endroit. S'il n'existe pas, alors il peut exister et être évidemment pas du tout à cet endroit-là. Et là, du coup, quand on le déplace, on se dit, aïe, oui, bon, alors là, il va falloir jouer au Tetris. Et est-ce que je vais y arriver de manière à ce que ça soit quand même harmonieux sur l'ensemble? S'il n'existe pas, c'est vrai que c'est pas mal de l'inventer, parce que même si ces paradigmes, on peut les critiquer, et très franchement, c'est pas forcément utile, enfin, c'est pas indispensable de les suivre, mais en tout cas, ça peut être utile de se poser la question, de voir s'ils ne pourraient pas finalement nous aider à ce moment-là. Si on doit le créer de toute pièce, ben, il faut évidemment qu'il soit en cohérence parfaite. Et en fait, il faut réécrire un petit morceau, quoi. Mais bon, c'est le travail d'adaptation. C'est pas seulement prendre la paire de ciseaux, c'est qu'à un moment, il faut aussi sortir le tube de colle et même reconstruire une pièce de puzzle qui manque. Donc voilà, ça c'est par exemple ce nœud central qui est important. Pareil pour placer assez régulièrement d'autres petits points qui permettent de faire rebondir, avoir davantage de cliffhanger, donc vraiment de petits suspens où on se demande ce qui va se passer, le truc qu'on avait en édition avant qui était si tu veux savoir ce qui arrive à ton héros, cours vite chez ton marchand de journaux la semaine prochaine. Bon, voilà. Ou ce que l'on a avec les séries télé à suivre, où on termine sur un truc du genre, ah oh la vache, oh non, on en est là, non, là vraiment ils sont méchants, il va falloir attendre la semaine prochaine. Bon, on connaît tous le truc, donc ça fonctionne très bien et on peut le mettre à l'intérieur d'un long. Ou en BD, on le met carrément assez régulièrement, et si possible, il faut avoir un tout petit truc comme ça en fin de bonne page, c'est-à-dire en fin de page impaire à droite, quoi, de manière à hop, page turn, qu'on sache exactement, qu'on n'en puisse pas plus et qu'on tourne la page. Alors, ça, c'est vrai qu'il faut les travailler, et puisque les séries télé sont également souvent le fruit d'adaptation, en série télé, c'est encore plus important. Et notamment, on le voit au niveau du travail américain, parce que bon, ils ont énormément de coupures pub, les pauvres, et il y a énormément de chaînes, et les gens ont tous une télécommande, un canapé et un ventre un peu lourd. Et du coup, si à la coupure pub, ils sont pas suffisamment intéressés, ils zappent. Donc, il faut absolument, avant la coupure pub, et il y en a quand même 4, 5, 6 pendant l'épisode, il faut absolument pouvoir accrocher pour l'empêcher de zapper, l'autoriser à la limite à aller aux toilettes, mais ça s'arrête là. Donc ça veut dire dynamiser, et c'est là d'ailleurs où la structure en trois actes éclate complètement, on l'utilise plus tellement et on en met beaucoup plus, parce que finalement, entre chaque coupure pub, on peut avoir un acte. ce qui signifie accélérer le tempo d'une façon radicale. L'autre point intéressant, enfin à retenir, et puis après on discute un peu parce que ça passe vite, c'est, je viens quand même, il faut que je termine sur le point qui est très très important, qui est le premier point pour moi, à savoir que s'il n'est pas là, il n'y a plus de scénario, ce sont les personnages. C'est les personnages qui font avancer l'action, ce sont eux qui provoquent, c'est eux qui... Alors évidemment, on peut avoir des personnages qui sont le jouet des actions extérieures, mais au bout d'un moment, ceux-là, on a envie de leur coller de tarte et de leur dire de réagir un peu. Ça peut être le cas. Justement, s'il y a un arc narratif sur le personnage, parce que très clairement, il ne faut pas que le personnage soit le même à la fin du récit qu'au début, sinon, ça veut dire qu'il n'a rien appris. Et du coup, ça n'a aucun intérêt pour nous, puisque tout récit, quelque part, fait écho à une sorte d'initiation pour nous. Donc il faut que si au début c'est une victime et un pauvre crétin, pourquoi pas du moment qu'à la fin il est quand même un peu plus intéressant, un peu plus courageux, un peu plus intelligent qu'au début. Faut pas que ça devienne caricatural, ce qui est parfois un peu trop le cas, mais il faut qu'il ait cet arc narratif sur la durée complète. Et si c'est insuffisamment le cas dans le roman, eh ben, il faut clairement forcer le trait. Parce que maintenant, l'écriture, et notamment états-unienne, je devrais quand même plutôt dire ce nom, nous a encouragé à le considérer comme tel. Et du coup, on ne peut plus accepter des personnages qui finalement, sauf dans quelques cas d'exception, hein, encore une fois, les règles ne sont pas... universel, mais aujourd'hui sinon c'est plus acceptable d'avoir des personnages qui n'évoluent plus. Et de la même façon, à l'intérieur des séquences ou même encore plus petit, des scènes, il faut qu'un personnage qui débute une scène ne soit pas tout à fait le même que quand il va la finir. S'il n'y a pas eu évolution, s'il n'y a pas eu une direction, s'il n'y a pas eu un mouvement en fait, la scène, même si elle amène des informations nécessaires à la compréhension, la scène ne vit pas suffisamment. Et nous, en plus, on n'arrive pas à s'incarner, à se projeter dans des personnages qui finalement sont un peu trop incolores et sans saveur. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un certain nombre de personnages qui doivent être éliminés du roman d'origine, ou qui doivent être réunis en un seul personnage plus intéressant. C'est pas seulement parce que s'il y en a trop, on risque de se perdre, ça c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi parce qu'il vaut mieux avoir moins de personnages très intéressants que trop de personnages dont une partie finalement n'a pas tant d'intérêt que cela. Voilà, je vais arrêter là parce que, bon, du coup, il est 27. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, elles sont les bienvenues.
Vous parliez au début de la difficulté de reproduire de mettre en scène les décors, le cinéma par rapport au livre. Est-ce que tous les effets spéciaux possible?
Oui, alors c'est vrai que je reprends la question pour l'enregistrement parce que je ne suis pas sûr qu'elle vienne. C'est vrai que les effets spéciaux permettent aujourd'hui de fabriquer des décors qui auraient été extrêmement difficiles. Alors, dans le cas de la science-fiction, c'est évident. Bon, et même quand on voit l'histoire, enfin l'évolution du cinéma science-fiction, c'est évident aussi. Encore que parfois, quand même, on a des sacrée surprise, enfin revoir Métropolis, hein, ça fonctionne, hein, mais bon. C'est certain que le cinéma, aujourd'hui, est devenu un cinéma plus graphique, notamment dans le cadre de la science-fiction. Les directeurs artistiques et les designers ont un plus grand rôle, et c'est vrai que la technique le permet aujourd'hui d'avoir des décors extraordinaires. Les derniers Star Wars, enfin, épisode 1, 2, 3, j'entends, sont visuellement plus complexes, plus riches que les premiers. Mais enfin, je trouve personnellement que bon, ça n'a pas forcément fait évoluer la qualité de Star Wars. Je préfère les premiers. Bon. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des romans où, dans lesquels on va avoir des descriptions qui sont en fait des descriptions d'ordre plus poétique et pas forcément des descriptions visuelles. C'est-à-dire qu'elles sont plus sensitives, mais elles ne sont pas visuelles quand on les lit. Alors, il faudrait que je trouve des exemples là, mais.
Balard.
Hein?
Balard.
Alors oui, typiquement Balard. En plus, j'ai travaillé là récemment sur donc, sur de l'adaptation de Balard, parce que c'est un de mes écrivains préférés. C'est vrai que Balard, typiquement, on lit La Foi de Cristal, par exemple. Ce n'est bon, je me fais une image de La Foi de Cristal. Qui est finalement comme si je me baladais au milieu d'une forêt de lustres. Bon, pour moi, c'est ça. Mais la description n'est finalement pas si... je l'ai relu récemment, j'ai relu le roman récemment, elle est pas si précise que ça. Comme souvent chez Ballard, il y a un aspect poétique qui prend le dessus, et bon, oui, on va pouvoir plus facilement... on a les moyens techniques de le mettre en forme. Maintenant... Ce n'est pas forcément évident. C'est moins évident que, mettons, si on lit un bon space-op avec des descriptions de planètes, de vaisseaux et d'extraterrestres, où on aurait vraiment un côté art science qui donnerait une description très précise de le type de SF avec description de l'habitat, du biotope, etc. Enfin bon, vous voyez le genre de choses.
Vous parlez des adaptations au cinéma. Et vous ne pensez pas qu'actuellement, en fait, c'est une manière, de civilisation de l'image, en fait, de supériorité en fait, de l'écriture cinématographique, et qui sur l'écriture romanesque, enfin, sur les écrits, et que même ça déteint le sens inverse.
Oui.
Ça déteint en fait, sur les romans. Et il y a certains, notamment aux États-Unis, je pense par exemple au dernier film de Ridley Scott, Blade Runner, mais. Seul sur Mars,
ouais.
Où, c'est d'abord un roman et qui était pratiquement programmé pour être adapté.
Oui, alors tout à fait. Je voulais en parler, d'ailleurs, j'avais mis dans mes notes, et puis bon, voilà, le temps. en fait, j'allais même parler d'un autre roman, mais je suis d'accord par exemple avec tous les romans de Crichton, de Michael Crichton. Ça, c'est évident quand on lit Jurassic Park, quand on lit, ou même Rising Sun ou autre. En même temps, Crichton est également un réalisateur. Bon, y compris un réalisateur de SF par ailleurs. Donc évidemment,
Un mauvais réalisateur.
Oh, je sais pas. J'aime bien la Grande Attaque du Train d'Or. J'ai toujours bien aimé ce film. Mais bon, enfin. En tout cas, je pensais à un autre roman. Alors là, par contre, vraiment, mais que je n'aime pas en termes d'écriture, mais qui est analysé en termes de structure, parce que bon, c'est vrai que là, on a clairement le produit des ateliers d'écriture qui déteint sur l'écriture romanesque, c'est le Da Vinci Code. Bon, dedans, on a... je vous vois sourire, mais on a des chapitres très courts, ce que j'appelle des chapitres de la durée de 10 stations de métro. Non, mais c'est-à-dire que du coup, ah bah ouais, super, je vais pouvoir me faire le suivant, donc voilà. Bon. Et puis, à chaque fois, il y a un cliffhanger à la fin, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on se fasse le suivant avec envie, quoi. Il faut qu'on le reprenne. Ça, c'est pas du tout de l'écriture littéraire, quoi, à la base. Sauf, à la limite, c'est quand même, bon, ça vient un peu du feuilletonisme, tout de même. Mais c'est quand même d'abord et avant tout une écriture qui vient du cinéma et de la série télé. Bref, du scénario.
Justement, des fois, certains films, même certains réalisateurs ont tellement de talent qu'ils arrivent à transcender le roman. Et en fait, des fois, le film est mieux que le roman. Ça arrive peu, mais ça arrive. Voilà.
Oui, ça arrive effectivement qu'il y ait parfois des adaptations finalement qui se révèlent plutôt meilleures. Mais ça, c'est parce que justement, alors le travail de l'adaptateur a été parfait, quoi. Non, mais c'est vrai que ça veut dire qu'il a réussi à enlever ce qui était en trop et à mettre l'emphase sur ce qui était important et à avoir un meilleur rythme. Il faut que... Ouais. Alors, je veux pas faire de la réclame, mais donc j'avais écrit ça l'année dernière. Et ça vient tout juste de sortir, c'est une encyclopédie mondiale sur le cinéma d'animation, puisque je suis historien du cinéma d'animation également. Voilà. Merci. Merci.